France Inter.
Merci pour ces informations, Éric Delvaux. Écoutez, je ne vous retiens pas parce que mon invité m'attend déjà. Je rentre dans mon bistroscopie.
Désolée.
Non,
je reviens d'un défilé. Donc
mais ouais, c'est
non, mais
ça, mon œil, ouais.
Un peu... Oui, c'était pour toi.
Bah, oui, mais bien sûr, je suis très flattée, c'est très joli. C'est ouf. Mais fallait me prévenir, je suis pas du tout habillée, moi.
Je te prêterai ma veste.
Moi, je me dis, je vais recevoir la fille la plus drôle de France et c'est la fille la mieux sapée de France. Qu'est-ce que je fais?
Ça peut être les deux, tu sais.
Ouais, c'est vrai. Voilà, donc Marie Papillon. Normalement, c'est la fille la plus drôle de France et la mieux sapée de France.
Arrête, tu me fous la pression, là.
Après, autrice, réalisatrice, comédienne, révélée par Instagram, avec un passé d'entrepreneuse. J'ai gratté, ça va être... voilà.
Oh, waouh. Ah oui, on se tutoie, on se voit.
On se tutoie
oh, ouais.
Ok, d'accord. Non. Est-ce que je pourrais
ça
va être ma toute première
tutoyation.
Ouais, ouais. Allez, on va faire ça. Ça fait un peu podcast.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Marie Papillon, votre métier depuis que vous avez 25 ans, c'est entrepreneuse. Vous avez monté 5 entreprises en 10 ans, j'ai lu, c'est vrai?
Ouais. Ouais, pas toute seule. Hein.
Non, j'imagine. On ne fait rien tout seul, de toute façon, dans ce truc-là. Parce que vous aimez les commencements.
On n'avait pas dit qu'on se tutoyait.
Oui, c'est vrai. Ok. Je vais le refaire. Marie Papillon, ton métier depuis 25 ans, c'est entrepreneuse.
Oui.
5 entreprises montées en 10 ans.
Oui, pas toute seule.
Est-ce que tu aimes les commencements?
J'adore, c'est ce que je préfère.
Ok. Donc là, c'est le meilleur moment de l'interview.
Ouais.
On fera pas mieux, hein?
Exactement.
On fera pas mieux derrière.
Ouais, non, on fera pas mieux. En fin de route, tu vas voir, ce sera pas la même chose.
Restez quand même avec nous parce que ça va être intéressant. C'est du lol et du fond. Le milieu des entrepreneurs, moi, j'ai l'image d'un milieu de type en costard, notamment des banquiers, etc. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est un milieu masculin?
Oui. Alors, je ne sais pas maintenant, mais en tout cas, quand j'ai commencé à l'époque entreprendre en tant que femme. C'était un peu compliqué parce que forcément, bah, tu dois gérer des événements, tu dois gérer des équipes, tu dois gérer des budgets. Et du coup, il fallait savoir se faire sa place. Après, moi, comme je travaillais dans un milieu événementiel autour de la nourriture, du divertissement, enfin, aussi de la créativité, j'étais face à pas beaucoup d'hommes en costume, quoi.
Ah, voilà. D'accord. Et est-ce que l'humour a été utile à ce moment-là pour se faire sa place?
Complètement.
Ouais.
Ouais. Complètement dans des situations où, voilà, si jamais il y avait un problème sur un événement, je sais pas, parce que l'événementiel, il peut se passer plein de trucs. Ouais. C'est un peu comme le film Le Sens de la Fête, hein, moi, quand j'ai vu ce film.
Ah, c'est vrai?
Ouais, ouais,
ça t'a parlé.
Ouais, ouais, complètement.
Il y avait quoi comme truc vrai que tu as reconnu dans.
Alors, je sais pas si je peux te dire du coup. Non, mais les problèmes avec les serveurs, enfin voilà, gérer l'humain, gérer les équipes, gérer les imprévus, ça m'a vachement parlé, quoi. Mm-hmm. Et comment il faut trouver des solutions très vite, et sachant qu'il y a des clients en face de toi et qu'ils payent pour un service, donc tu es obligé de leur amener ce service. Donc souvent, moi, j'utilisais un peu l'humour, un peu le rire pour essayer de dédramatiser les situations, de faire patienter, voilà.
Et pour gérer tes équipes, est-ce que c'était aussi l'humour une méthode de management? Est-ce que ça te plaisait de faire rire tes équipes et est-ce que ça fédère autour d'un... Oui, on a été servi.
Désolée, j'ai trinqué toute seule.
Allez, on est au vin blanc, et on peut.
Pas du tout, on a pris un thé glacé.
C'est vrai, pardon. En tout cas, il est très bon ce thé glacé.
Il est délicieux. alors, c'est bien, je fais un peu de ASMR en même temps.
Ouais, moi aussi.
Parce qu'il faut boire un verre d'eau entre chaque verre de vin. Mmh. C'est ça, hein? Donc, est-ce que l'humour, c'est aussi une méthode de management?
Je pense que oui. Après, il faut trouver la limite entre être sympa, à l'écoute et dans une ambiance de travail agréable, tout en gardant une certaine... alors, je ne sais pas si je peux dire autorité, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait un espèce de lien qui se crée où tu deviens ami avec tes équipes. Et là, en fait... c'est très compliqué, si jamais il y a un problème, de trouver qui est responsable, de prendre la responsabilité, ou même... C'est compliqué, je trouve, de faire la fête, par exemple, avec tes serveurs, et puis le lendemain, leur dire, bon, en fait, vous n'êtes pas levé à l'heure. Voilà. Ah, bah oui, on était ensemble. Oui, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non,
oui,
mais voilà.
Évidemment.
Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais ça, je l'ai appris vachement aussi sur le tas. Après, j'ai beaucoup travaillé avec mes amis, parce que je faisais bosser mes copines qui n'avaient pas de boulot. Et souvent, il y a eu des situations qui étaient un peu compliquées, voilà, parce qu'on était amis. Mais j'arrivais quand même à me faire respecter d'une certaine manière. Et je pense que ça ne passait pas par le fait d'être sévère ou par le fait d'être quelqu'un de plus haut placé, entre guillemets, ça passait justement par créer ce lien un peu de confiance et par l'humour. Et donc, du coup, bah, mes équipes avaient envie de me respecter parce que j'étais sympa avec elles, quoi.
J'ai vu qu'il pouvait t'arriver de te cacher dans une caisse pendant genre 15 minutes pour surgir à un moment et faire une blague.
Oui. Mais bon, mais ça, écoute...
J'adore l'idée.
Oui, oui, bah, je faisais beaucoup de choses comme ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais sur les temps libres, voilà.
Bien sûr. Et donc, tout ça, c'est d'abord une affaire de food truck, puis un food market, une cantine de rue où des grands chefs proposaient des plats à 10 euros.
Alors, il y a de tout, en fait. Le food market, c'est pas que des grands chefs. C'est vraiment comment proposer une offre de nourriture qualitative avec une histoire à raconter et avec des prix abordables, en fait.
Donc, vous avez la solution contre l'inflation, vous, en fait?
Alors, je ne suis plus dans l'entreprise, donc je ne peux pas savoir.
C'est dommage. C'est dommage. Et puis, il y a un studio photo aussi, une boîte de production. Est-ce que, là, il y a déjà le feu de la création? Aujourd'hui, vous êtes artiste, on peut dire, comédienne, autrice, réalisatrice. Est-ce qu'il est là, le feu de la création, déjà, quand on lance 5 boîtes en 10 ans?
Oui, je pense, parce qu'en fin de compte, je me rends compte que le métier d'actrice, réalisatrice, autrice, c'est pour moi aussi un métier d'entrepreneuriat. Enfin, pour moi, c'est comme une entreprise. Parce que si on ne fait pas les choses, si on ne va pas rencontrer des gens, si on ne crée pas des projets, bah, on ne gagne pas sa vie.
L'un de vos grands-pères gérait le bar collé à l'Olympia.
Ouais.
Où les chanteuses et les chanteurs mythiques se rendaient. Et petite, vous avez vu donc un gérant, Papy Papillon, c'était lui.
Oui, tout à fait.
Et des artistes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un hasard, vous faites la synthèse des deux?
Mais si. Enfin, en plus, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'événementiel dans son bar. Il faisait des soirées du jour au lendemain. Il faisait des spectacles, il faisait des banquets énormes. Enfin, voilà. Donc, lui, il faisait vraiment... C'était les débuts de l'événementiel pour moi, mon grand-père, quoi. Et ce qui est fou, c'est que j'ai fait exactement la même chose après. Et après, je suis devenue en plus artiste.
Ouais. Au départ, tu utilises Instagram pour faire découvrir ton quotidien d'entrepreneuse, de jeune entrepreneuse. Qu'est-ce que tu montrais à ce moment-là, à l'époque?
Ben, je me filmais porte de Versailles, en train de brancher des câbles sur les salons avec tous les techniciens à 5 ou 6 heures du mat. Je me filmais aussi sur les événements. Et puis après, petit à petit, ben, à chaque fois, je faisais une connerie, quoi. Enfin, à chaque fois, par exemple, je me filmais en train de faire peur aux gens ou voilà, pendant les installations, ce genre de trucs. Bon, je filmais rarement les clients quand même. Hein, parce que,
donc, voilà. L'idée, c'était de faire découvrir ton métier d'entrepreneuse.
Exactement. Mais via l'humour. Mm-hmm. Voilà. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte qu'Instagram est un super moyen de dire des choses et de montrer des choses. Et c'était au moment où on pouvait commencer à faire des vidéos avec des très beaux filtres. Et donc, on apprenait à comment monter des vidéos sur Instagram. Je sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment... Au début, il y avait des photos avec les filtres terribles. Si tu remontes dans tes archives Instagram, t'as toujours un filtre un peu pourri, sépia, qui fonctionnait à fond. Et puis après, il y a eu les stories et les vidéos. Du coup, avec les vidéos, je me suis dit, bah, c'est quand même super de faire des vidéos parce que je peux faire encore plus de conneries. Et donc là, je suis complètement passée sur la totale connerie. Voilà.
Et tu es passée sur la totale connerie, est-ce que parce que tu t'es rendu compte qu'à un moment, les gens ne voyaient que la blague?
Oui, c'est ça, je pense. Et aussi parce que très vite, bah, j'ai partagé mon quotidien, j'ai partagé donc le travail, j'ai partagé le fait de m'assumer en tant que femme homosexuelle aussi. En fait, je partageais un peu toute ma vie. Je me représentais comme ça, mais toujours en rigolant, quoi. Et puis surtout une femme qui fait de l'humour. À l'époque, il y avait très peu de femmes qui postaient des vidéos d'elles le matin, les cheveux en l'air, ou leur chien, ou leur truc, voilà. Ouais. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça, en me postant complètement au naturel et en faisant des bêtises, quoi. Donc, je suis devenue un peu un rendez-vous pour les gens.
Et donc, la blague recouvrait un peu le message, peut-être. C'est ça l'idée aussi que tu voulais dire?
Ouais.
On entendait moins ton message parce qu'il y avait beaucoup de blagues. Alors, ça, c'est amusant parce que moi, j'ai toujours été persuadée que la blague était une sorte de levier pédagogique et permettait de mieux mettre en lumière le message.
Après, oui.
Ah, ok.
Après, oui. Mais au début...
Parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui aussi.
Ah oui, complètement. Non, au début, Insta, c'était vraiment... Je me disais, bah, c'est sympa, je fais des blagues, je rigole, il y a des filtres, des trucs. Voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, les gens m'écoutent. Donc, bah, je vais parler de tel sujet. Donc, je vais parler... voilà, des sujets qui me touchent. Mmh. Et puis après, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, quand on parle des sujets comme ça, ils gobent tout.
Et oui,
ça peut être sympa.
Il y en a de plus en plus, voilà. Et puis ça engrange des followers, bien
voilà.
sûr. Une de tes séries préférées, c'est Le cœur a ses raisons.
J'adore.
Qui parodie un peu toutes les séries, comme Les feux de l'amour, etc. Comment est-ce qu'on parodie sans tomber dans la moquerie, parce que je pense que t'aimes pas la moquerie.
Non, j'aime pas la moquerie, et je trouve que Le Cœur a ses raisons, ils le font très très bien, parce que c'est tellement poussé à l'extrême. Tu as regardé déjà ?
Ouais.
Ah, j'adore. je me fais les replays sur YouTube, vous connaissez ? C'est génial. Comment on fait ?
T'aimes pas la moquerie ?
Moi j'aime pas la moquerie.
Tu tires le plus possible vers l'absurde, pour que ce soit tellement absurde que...
Ouais, mais pour qu'en fait ça puisse parler à tout le monde, je pense. Mm-hmm. C'est ça, après moi j'aime bien me moquer de moi, j'aime bien me moquer de ce qui me concerne, mais c'est vrai que j'essaye d'avoir un humour qui puisse être ouvert à tout le monde et qui fasse pas de mal en fait.
Tu œuvres sur les écrans Instagram ou le cinéma, j'imagine que beaucoup de gens te projettent sur scène.
Oui,
ouais.
Alors beaucoup de gens, mes parents, ma sœur et ma voisine. Mais c'est déjà pas mal. Non. Oui, on m'a déjà proposé de monter un spectacle. Mais je dis pas que je suis contre de manière catégorique. Mais je pense que chaque chose en son temps. Et là, je suis déjà en train de connaître un nouveau métier, connaître d'autres choses que j'ai envie de faire. Et moi, j'aime bien faire les choses... savoir que je peux faire plusieurs choses à la fois, mais que je les fais bien. Mmh. Voilà. Et monter un spectacle, j'ai l'impression que c'est... il faut quand même déjà avoir le courage d'être devant des gens. Et de parler, de dire tous les soirs la même chose, de faire rire les gens ou de capter l'attention de plusieurs personnes en même temps, c'est. C'est chaud quoi. Donc je pense que ça prend du temps, beaucoup de réflexion, il faut être bien entouré, puis il faut savoir ce qu'on raconte. Si c'est juste pour être sur scène et faire deux, trois blagues.
Marie Papillon, t'as un vieux sage déjà.
Ouais, en fait. C'est terrible tout le monde.
c'est pas terrible,
c'est génial. Mes copines, elles me disent ça, j'ai une copine dans son répertoire, il y a écrit le sage.
Ah oui ?
Ouais. Bon voilà.
C'est bien, tu t'es révélée au micro comme ça, j'adore l'idée.
Bah écoute, peut-être que j'ai une vieille personne en moi qui est incarnée, quoi.
Tu as eu ce genre de discussion avec Agnès Hurstel, j'imagine, parce que c'est l'objet de Je Négolerie, série diffusée sur ECS dans laquelle tu joues.
Enfin, alors moi j'en ai parlé avec elle par rapport à son expérience à elle, mais après sur moi, Agnès ne m'a jamais dit tiens, tu devrais monter un spectacle ou. Non, elle m'a plutôt dit, tiens, ça te dit pas qu'on fasse des trucs ensemble, de jouer dans ma série, de réaliser.
Alors justement,
tout ça.
Vous êtes rencontrés, par hasard, vous connaissiez pas à un feu rouge en scooter.
Ouais.
Est-ce que tu conseilles aux gens de profiter à Paris des embouteillages pour pitcher leur projet ?
Complètement.
Ça marche ?
En tout cas, mais après, encore une fois, c'est parce qu'elle me suivait sur Instagram. Instagram, ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens et en tout cas de pouvoir à un moment donné montrer ce que je savais faire. Mais du coup, ça m'a amené sur la route de Agnès qui m'a dit je vais être ta meilleure amie. Et j'ai dit ok. Et puis 4 ans plus tard, elle m'a vraiment proposé le rôle de sa meilleure amie. Quoi. Donc c'est trop bien.
France Inter. Bistroscopie. Charline Vanhoenacker.
Tu défends l'idée que pour lancer un business, il faut connaître la réalité du métier. Donc l'époque food truck, il faut savoir faire des sandwichs, grosso modo.
Alors, j'aime bien comment tu le dis.
J'ai l'impression de reformuler un truc que
oui,
j'ai
complètement,
lu
entendu. Oui, complètement. Alors que moi, j'aurais dit, pour lancer un food truck, il faut faire des burgers. Il faut savoir faire des burgers. Non, c'est juste
dis
que...
la même chose, non ?
Oui. Non, mais tu l'as beaucoup mieux dit. Alors, effectivement, c'est juste que quand j'ai commencé et qu'on m'a proposé de lancer le food truck, moi, j'avais jamais rien fait en cuisine. Mm-hmm. J'avais l'aspect commercial, j'avais la tchatch, j'avais tout ça. Mais pour vendre... ce dont quoi je parlais, ça se dit.
Ce que je vends.
Voilà,
ce que je vendais.
Ouais. Il fallait que je sache comment c'était fait, combien de temps ça prenait. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps dans le food truck à me lever, à faire des burgers, à prendre le camion, à le nettoyer. Combien de temps on le nettoie ? Ouais, donc tu perds tant de temps. Donc ça veut dire que sur ta vente, ça fait ça. Enfin voilà, comprendre tout le début. Parce que si je vais vendre un produit après, mais que je sais même pas moi le réaliser ou. Voilà.
Je trouve que c'est une belle manière d'approcher les choses. Et donc je me dis, un ministre pour vendre sa réforme, il devrait s'inspirer de toi. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas dire à Gérald Darmanin « Ok, alors mon gars, je vais te donner un casque, une matraque, il y a une manif à 14h, va faire ton stage et puis tu reviens, on en reparle. » Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme ça ?
Écoute, oui. Mais propose-lui, tiens.
Gérald, si tu nous écoutes. Marie Papillon, est-ce que tu t'intéresses un peu à la politique française ?
Alors, oui, comme toute citoyenne. Après, je vais être très claire, il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Voilà, donc je m'y intéresse, mais à mon niveau. Voilà.
C'est-à-dire ton niveau, citoyenne.
C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Après, je regarde les infos, je regarde toutes les interviews, mais je trouve qu'il y a aussi vachement à boire, à manger. Et donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Par exemple, quand je vois en Espagne, il y a une super ministre qui s'appelle Irene Montero.
Elle est ministre de quoi ?
Ministre de l'égalité du gouvernement. Je te conseille de la suivre.
Ok.
Typiquement, j'adorerais qu'on ait ce genre de personnalité au gouvernement qui défendent les minorités, qui défendent les personnes transgenres, qui défendent voilà, les femmes, mm-hmm. et qui prend vraiment position et qui se lève pour ça. Ça, là, du coup, ça me parlerait, je serais peut-être plus animée. Mm-hmm. Voilà, après, j'ai des convictions, j'ai mes propres combats et bien évidemment que je suis interpellée par tout ça. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Et,
Mais tu regardes au-delà des frontières françaises, donc.
Ah, complètement, puisque, bien sûr, je regarde même dans n'importe quel... Là, je suis allée par exemple à Amsterdam pour faire une conférence sur la représentation des femmes et des femmes lesbiennes dans les médias. Mmh. Et typiquement, Amsterdam, c'est une ville qui est beaucoup plus évoluée sur l'acceptation des personnes de minorités ou sur l'inclusion en général. Enfin, ils ont... même à Londres. Voilà, donc moi je me baladais à Amsterdam, j'avais l'impression d'être dans le marais tout le temps. Je dis, ah, on est dans le marais. Ils disaient, bah non, bah si, il y a un drapeau. Non, ah, on est dans le marais là. Non, non, on n'est pas dans le marais. Ils disaient, mais c'est partout comme ça en fait. Les parkings sont aux couleurs LGBT, tu vois. Voilà, ça typiquement. Donc c'est pour ça que je regarde ailleurs, parce que pour moi, je me rends compte qu'en France, on a encore beaucoup de retard. Et en même temps, il y a plein de choses qui me dépassent et il y a plein de choses que je ne comprends pas. Donc voilà.
Tu regardes en dehors des frontières de l'Europe et parfois avec un coup d'avance sur le gouvernement, parce qu'il y a 2 ans, je t'ai entendu évoquer dans une interview les cours d'empathie à l'école dans le nord de l'Europe. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, propose de l'expérimenter bientôt contre le harcèlement scolaire. Donc on est 2 ans plus tard par rapport
à... Voilà, il a fallu que je donne l'idée.
Voilà, il me semble. Donc quelle idée, Marie Papillon, as-tu aujourd'hui que Gabriel Attal pourra appliquer seulement dans 2 ans? Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui manquerait ? Je pense que je fais quand même le constat qu'on grandit quand même avec nos traumatismes d'enfance et ce qu'on nous a appris à l'école et la non-communication qu'on a pu avoir avec les éducateurs au sens large, c'est-à-dire nos parents, les professeurs. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faudrait que, je ne sais pas à quel moment en tout cas de l'école, mais que très tôt, on ait des cours qui parle de l'inclusivité, qui parle de la différence, qui parle de...
Du cours d'éducation sexuelle.
Bah, si ça existe aussi, en France, bien sûr.
Il y en a en Belgique, mais...
Oui, mais bah oui, ça a fait tout un pataquès.
Oui, pataquès mais voilà, avec des intégristes, cas, oui, veux dire, avec des intégristes et catholiques et musulmans et des complotistes. Donc eux, ils se sont fédérés. Ils ont même été jusqu'à brûler des écoles. Donc,
Voilà, mais donc ça me démoralise. Mais... Mais en tout cas, voilà, essayer de faire des cours pour que très tôt, les enfants... Quand ils sont encore dans cette période de se dire « Ah, bah tout le monde est beau, tout le monde est gentil », et qu'ils vont passer à l'étape d'après, on va leur dire « Bah non, non !» Voilà, qu'il y ait cet entre-deux où à ce moment-là, on puisse leur laisser la place pour parler. Donc ça peut être cours d'empathie, cours d'éducation sexuelle, mais voilà, dans un truc bienveillant et d'échange. Mmh. Et j'ai l'impression que dans les pays nordiques, c'est un peu plus ça. Et je pense que si on fait ça, bah du coup, on évitera beaucoup de choses comme le harcèlement, comme l'homophobie. Voilà, parce que tout ça, c'est de la non-communication et je pense que ce n'est pas sain.
Et de la peur quand on ne connaît pas.
Ouais, peut-être. Voilà, c'est exactement ça. Alors que si dès le début, on leur dit, bon, le monde, il est fait comme ça, il y a ça, 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 mais tout est OK, forcément, ça ira mieux. Voilà.
Il y a des solutions. Hein. Un dernier mot sur la pure politique. Il y a une vidéo qui vous a rendu célèbre, qui t'a rendu célèbre, Marie Papillon, celle où tu réponds à Alain Finkielkraut, qui s'insurge contre le crop top, qui bien sûr met en péril la République, on sait. Oui. Est-ce que tu veux bien, pour peut-être nos auditeuristes qui n'ont pas vu la vidéo, qu'est-ce que tu réponds à Alain Finkielkraut ?
Eh bien, je réponds que... en fait, que c'est à lui de ne pas sortir, en fait, si je ne veux pas voir des crop tops, voilà, qu'il peut rester chez lui. Oui. Voilà, ça me paraît logique.
Et que les filles font ce qu'elles veulent.
Exactement. Mais, voilà. Mais que lui est aussi invité à sortir torse nu s'il le souhaite.
Non, Marie Papillon, j'ai l'image. C'est l'image de Finky, torse nu.
Mais voilà, que tout le monde fait ce qu'il veut, en fait. Voilà.
C'est on l'embrasse, il nous écoute, c'est jamais. Enfin, c'est... Il est en PLS depuis le début, s'il nous écoute, mais sinon...
Non.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie. Sur France Inter.
Je suis attablée au Bistroscopie devant Marie Papillon, entrepreneuse de LOL, comédienne, autrice, réalisatrice. Est-ce qu'on parle de votre premier grand rôle au cinéma ?
Oui.
Allez. C'est dans La Graine, film d'Héloïse Lang, qui est la réalisatrice de Connasse avec Camille Cotin notamment. La Graine, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes qui entament le parcours du combattant pour avoir un enfant, faire une PMA. Bien que ce soit autorisé en France, il n'y a pas assez de donneurs, elles ont du mal à trouver. Et elles se rendent en Belgique, mais là aussi, il y a pénurie. Un sujet de fond qui est traité sous forme de comédie.
Oui.
Film avec Stécie Martin, François Damiens, Guillermo Guise et Stéphanie Van Vive, qui est disponible sur Prime Video.
Exactement.
Alors, pour pouvoir faire une PMA, même si c'est autorisé en France, il vaut mieux aller en Belgique.
Oui.
Pour pouvoir mourir dans la dignité, il faut aller en Belgique aussi. Est-ce que la Belgique, c'est pas le plus chouette pays du monde ?
Moi, j'adore. Hein. J'adore, tu sais que mon frère est belge, est devenu belge.
Ah bon ?
Ouais. Il vient en Belgique et du coup, il a pris la nationalité.
Mais quel bon goût !
Bah voilà.
Donc, très bonne idée.
Et moi, j'adore aussi.
Ok, c'est mon compatriote alors. Ouais. Est-ce qu'il y a un engagement de votre part dans ce film ? Si oui, lequel ? Est-ce qu'il y a un engagement de ta part dans ce film ? Et si oui, lequel ?
Bien sûr, oui, oui, il y a un engagement, c'est sûr. Ça me parle puisque ça concerne la condition des femmes LGBT, en tout cas le couple de femmes LGBT homosexuelles. Et en plus, la PMA, qui en Belgique a été acceptée il y a bien longtemps et qui vient d'être acceptée en France et où il y a encore des problématiques par rapport à ça. Alors après, moi, je ne sais pas exactement les chiffres encore maintenant. Je ne me suis pas renseignée sur les chiffres, ouais. Mais je sais qu'au début, il y a eu très, très peu de donneurs pour énormément de demandes. Et donc forcément, quand Héloïse m'a proposé de faire le film, j'étais animée par le sujet parce que ça me concerne. Alors pas moi personnellement, mais en tout cas, ça concerne beaucoup de femmes que je connais. Et voilà, j'ai aussi appris qu'en France, il fallait faire, avant de faire une demande de PMA, pour celles qui ne portent pas, il faut aller chez le notaire pour dire... Mais en gros, il faut aller... Moi, si on veut un enfant ensemble, par exemple,
d'accord,
et que
ouais.
tu le portes,
ouais.
il faut que j'aille voir le notaire pour dire « Je vais avoir un enfant, donc quand il va naître, je serai sa mère. » Mais c'est avant de faire le processus. Donc
ouais.
déjà, avant de faire le processus de PMA, t'es déjà dans une démarche administrative alors que t'as même pas l'enfant. Enfin, c'est quand même bizarre comme...
Donc c'est un frein de plus.
Ah bah oui, complètement. Mais de toute façon, il y en a beaucoup, quoi. Voilà.
Donc, est-ce que c'est fait pour protéger, peut-être
Qui
Je sais pas, l'enfant, le...
Oui, mais après...
C'est-à-dire s'il y a un des conjoints décède ou ce genre de choses.
Ah, mais complètement. Voir, ouais. Mais ça, on devrait pouvoir le faire quand l'enfant naît et que, comme n'importe quel parent, on va signer... Voilà. Là, il faut le faire avant de faire tout le parcours.
Ouais. Tout le bazar.
Ouais, tout le bazar, c'est ça.
Tout le bazar. Ouais. Marie Papillon, tu es la personne idoine. Et elles sont rares pour évoquer le pavé dans la mare jeté par Muriel Robin.
Oui.
Qui a déclaré, je rappelle, qu'elle était la seule actrice homosexuelle assumée très tôt, que c'était un handicap pour décrocher des rôles au cinéma.
Bien sûr.
Que tu attendais que quelqu'un le dise ?
Alors, je ne sais pas si j'attendais que quelqu'un le dise. En tout cas, j'ai trouvé ça très touchant et forcément, ça m'a parlé parce que... Alors après, j'ai pas du tout la même carrière que Muriel Robin. Elle a 30 ans, moi j'en ai 3. On n'est pas de la même génération. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part. Et je me suis dit, j'aurais aimé qu'elle ait la possibilité de le faire avant. Parce que pour moi, c'était un vrai cri du cœur. Et donc, ça m'a fait du bien qu'elle en parle et qu'elle le dise. Voilà, ouais.
Elle ajoute cette phrase, qui était très forte aussi. « Si vous n'êtes pas pénétrable, vous n'êtes pas désirable. » Est-ce que c'est pas un peu en train de changer quand même ?
Alors moi j'ai bon espoir que
dans
ça change.
Ta génération.
Oui,
par
voilà.
exemple.
Ce qu'il y a c'est que effectivement moi c'est vrai que quand je suis arrivée dans le métier le fait d'être lesbienne était déjà établi. Donc je n'ai pas fait de coming out, c'est-à-dire que les gens m'ont découvert, je leur ai pas laissé le choix quoi. J'étais déjà lesbienne donc j'ai dit désolé les gars. Je l'ai déjà dit il y a longtemps. voilà, donc j'ai pas eu cette phase de coming out. C'est-à-dire en tant que personnalité, à un moment donné, qu'on nous demande de dire de quel côté de la barrière où on est. Voilà. Donc moi, je n'ai pas eu ça.
Mais ça ne t'empêche pas de faire du cinéma, des séries,
non,
au contraire.
Non, pas du tout, parce que aussi, je pense que je suis entourée d'amis et de réalisateurs et de gens qui, en fait, ont envie de faire changer les choses, qui ont envie d'être dans l'inclusivité, qui ont envie de mettre de plus en plus de personnages LGBT, par exemple, pour ma part, dans la graine. Voilà, moi, je suis super contente d'avoir pu incarner une lesbienne. Enfin, pour moi, quand j'étais petite, si on m'avait dit « Tu joueras la première comédie romantique homosexuelle sur Prime Vidéo avec François Damiens », j'aurais dit « Bon, les gars, foutez un peu de ma gueule ». Et je pense que la génération d'après encore, pour eux, c'est même pas un sujet. Ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous pansexuels au lycée. voilà. Donc, eux, ils sont encore sur un autre chemin. Après, ça ne veut pas dire que c'est une généralité non plus. Mais en tout cas, j'ai bon espoir que ça change. Ouais.
D'ailleurs, cette phrase de dire aussi on n'est pas désirable dans le regard de certains réalisateurs, etc., vous êtes le contre-exemple parce que vous êtes demandé, vous êtes désiré. Vous jouez un peu de ce côté glam aussi. On rappelle aujourd'hui que vous êtes venu en haute couture latex.
Pour toi.
Non, n'essayez pas de détourner la conversation.
Et on se tutoie.
Oui,
alors, on a un problème. On est entre le tutoiement, Là aussi, il y a une crise identitaire par rapport à ça, j'ai l'impression, entre le vouvoiement et le tutoiement.
C'est parce que je pense que c'est ma toute première émission de radio de ma vie, en 12 ans, où je tutoie l'invité.
Bah voilà, il faut une première fois à
J'ai
tout,
passé le pas avec Marie Papillon.
Ouais. Je trouve que ça peut être bizarre, ça, sortie de son contexte.
C'est vrai. Muriel Robin, conseille aux jeunes, dit ça vaut pas la peine de faire un coming-out médiatique, on vous donnera pas de rôle, je vous déconseille aux jeunes de faire. Alors encore, c'est à son point de vue de sa génération, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il vaut mieux peut-être pas le dire pour décrocher des rôles.
Après, moi, j'ai pas de jugement. Enfin, chacun vit aussi son cheminement par rapport à son coming out et par rapport à l'acceptation de sa sexualité. Donc moi, je peux pas dire il faut le faire ou il faut pas le faire. J'adorerais qu'on soit dans un monde où on n'ait plus du tout à le faire. Maintenant, moi, j'ai eu la force à un moment donné de pouvoir le faire, mais parce que mon environnement faisait que je pouvais le faire. Peut-être que si je le faisais maintenant, si j'évoluais dans ce monde maintenant, je l'aurais peut-être pas fait de la même manière ou je l'aurais peut-être pas fait. Donc, en fait, je suis personne pour dire si on doit le faire ou pas. J'en sais rien.
Si tu es Marie Papillon. Non,
mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment qu'il faut s'assumer et qu'il faut être fier de ce qu'on est. Maintenant, je pense que tout le monde a aussi besoin de prendre du temps et de processer et je respecte ça aussi. Je trouve qu'il faut être là pour les autres et il faut encourager les gens à s'assumer, mais il faut comprendre aussi que parfois c'est pas forcément facile pour tout le monde de faire ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'accepter en tant que lesbienne et j'ai fait ce cheminement, mais parce que j'ai commencé à 7 ans, quoi. Donc j'ai eu un petit peu de temps pour le faire. S'il y a d'autres gens qui le font à un autre moment de leur vie, c'est leur cheminement aussi, quoi. Donc il faut s'assumer. Mais je ne pourrais pas obliger les gens à faire leur coming out s'ils n'ont pas envie de le faire, puisqu'il faut qu'on arrête de croire que tout le monde doit dire... Enfin, c'est quand même dingue de définir les gens par rapport à leur sexualité. Ouais. C'est un concept qui est assez... Parce que les hétéros, tout le monde s'en fout qu'ils soient hétéros.
En fait, cette conversation qu'on a, on est en 2023, on ne devrait pas l'avoir.
Et c'est exactement ça. C'est pour ça, en fait.
Je me disais aussi, mais on l'a quand même, vous voyez. Enfin, tu vois. Oui. Et pour terminer sur le cinéma, La Graine, justement, dans La Graine, est-ce qu'il serait envisageable que le couple de filles soit incarné par deux actrices hétéros? Ou tu aurais trouvé ça pas cohérent? Tu t'es posé la question.
C'est compliqué. Je me pose la question. Hein. C'est compliqué de répondre à cette question. Hein. Ouais. Tu me fous une colle, là.
On peut laisser la question sans réponse, si tu veux. Et y réfléchir.
J'adore. Alors là, ils sont tous en train de me regarder. Je pense que c'est mieux que ce soit... Enfin, en tout cas, le fait que moi, je sois LGBT et que ce soit coécrit par une femme LGBT aussi, ça permet de mettre plus d'essence et ça permet aussi de mettre plus de crédibilité et ça permet aussi de donner une représentation. C'est-à-dire qu'en me donnant ce rôle... si elle l'avait donné à deux hétéros, j'aurais été très contente que ces deux hétéros soient visibles, parce que ça aurait donné une visibilité au film et à la cause. Mais en me prenant en tant qu'actrice, elle me permet aussi d'avoir du travail et d'être représentée, moi, en tant que lesbienne. Donc c'est ça qui est important. Voilà.
Tu as grandi au Havre.
Oui.
Tu as quitté le Havre pour Paris, une ville où tu pouvais vivre ta sexualité plus librement. Question: est-ce que c'est pas un petit peu opportuniste de ta part, Marie Papillon, de te servir de ton orientation sexuelle comme excuse pour fuir le Havre?
Alors, sache que moi, j'adore le Havre. J'adore cette ville. Donc non, je n'ai pas fui le Havre pour son architecture ou pour les gens. J'adore la ville. Mais pourquoi t'aimes pas, toi?
Si, j'aime beaucoup.
Ah, attention.
On est allé faire une émission au Havre et j'ai
trouvé... C'est génial, le Havre.
Alors, je te dirais que là d'où je viens, dans ma ville...
C'est où?
La Louvière, c'est dans les Charbonnes.
On a tourné à La Louvière.
Ah, c'est vrai? La Graine?
Bien sûr.
Mais j'ai pas
reconnu. Attends, il n'y a pas une fac ou un truc comme ça, où il y a quelque chose?
Non, il n'y a pas de fac. Mais
En tout cas, on est passé à La Louvière, sûr.
Okay.
Ah, c'est sûr, je me rappelle de ce nom.
J'ai pas reconnu le lieu, en tout cas. Eh bien, La Louvière, c'est, si tu vas à côté de Le Havre, c'est Paris, quoi.
Ok.
Je vais me fâcher avec toutes les Louvières, chez moi. Non, donc moi j'ai trouvé Le Havre, moi j'aime bien Le Havre.
Moi j'adore cette ville.
C'est-à-dire que Le Havre est souvent utilisé en humour, comme il y a Limoges,
ça,
Le
avant.
Havre, il y a
Mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est que là on est en train de changer, et tu vois, c'est pour la même chose pour les questions, là Le Havre est en train d'évoluer, et on change de regard par rapport au Havre.
Entrepreneuse, c'est toi qui diriges, comédienne, c'est toi qui es dirigée, est-ce que ça t'a déstabilisé ou pas?
Non, j'ai trouvé ça super parce que je trouve que c'est génial d'apprendre. Enfin, moi, dans n'importe quel métier que j'ai fait ou n'importe quelle aventure que j'ai commencé, c'est la phase, comme quand tu disais, t'adores le commencement, c'est la phase où t'es constamment en train d'apprendre des autres. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super d'être dirigée. Parce que t'es tout le temps en train de te remettre en question, t'es tout le temps en train d'écouter l'autre. C'est un vrai travail de collaboration, en fait. Après, il faut le faire de manière... voilà, Héloïse a été une super...
Héloïse Lang, oui.
Héloïse Lang, pardon, super réelle. Donc, elle m'a bien dirigée. Après, faut pas non plus diriger de manière trop, tu vois...
Trop dictatoriale.
Voilà, c'est ça. Mais non, non, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est génial. C'est génial.
On arrive tout doucement à la fin de l'entretien.
Oui. C'est pour ça que je perds du jus, t'as vu? Ouais, c'est génial.
Tu es inséparable de ton chien Bibi, qui est une star aussi des réseaux, mais bien sûr, des réseaux sociaux. Est-ce que tu as d'autres points communs comme ça avec Michel Drucker?
Alors. Ouais, il reçoit beaucoup de gens sur son canapé.
Ah.
Ouais, qui parlent, qui racontent les problèmes et tout. Ouais. Moi, ça, c'est
et toi, ça défile, ça. Les amis défilent chez toi?
Ouais, ça n'arrête pas, je devrais faire payer mes consultations. Voilà. Mais j'adore en même temps. Bah oui.
Il paraît que tu as appris à apprécier des temps calmes et de repos rien que pour toi, alors que jeune, tu n'imaginais pas une minute arrêtée.
Ah ouais, maintenant.
C'est vrai c'est,
Ah bah maintenant, j'adore ça.
Alors, est-ce que, j'ai vérifié, hein, je pense que apprécier de plus en plus les choses calmes et prendre du temps pour soi, c'est vieillir un peu.
Mais je sais, c'est terrible.
Mais non, c'est pas terrible de vieillir.
Si, si. Alors attention, je n'ai aucun problème à vieillir physiquement ou quoi que ce soit, voilà. Mais en fait, c'est terrible parce que j'ai trop de trucs à faire, hein. J'ai trop de gens à voir, c'est terrible. Moi, je veux pas vieillir. Hein.
Ah, c'est ça. Cette peur de vieillir, elle vient du tellement de choses à faire, de commencements à commencer.
Mais c'est ça, en fait, il y a trop de commencements. Mm. Donc là, tu me parles déjà de fin, donc c'est pas possible. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit. À partir du moment où je me suis dit tu adores te balader en forêt seule avec ton chien, c'est terrible. Il y a un problème.
Pour terminer une interview avec toi, Marie Papillon, il faut plutôt demander quel sera ton prochain commencement.
Ah.
Ton prochain début, ce serait quoi?
Mon prochain début, c'est de... Je pense écrire un long métrage et réaliser un long métrage. Voilà, ce que je suis en train de faire. Écrire, voilà. Qui se passe au Havre. Voilà.
C'est joli le Havre,
tu vois.
Ouais.
Tu seras invitée à l'avant-première.
Ah bah avec joie. Attention, c'est noté. Voilà. Merci Marie Papillon.
Merci.
C'était Bistroscopie. Ophélie Vivier en est la chargée de programmation, François Audouin le réalisateur, et à la technique aujourd'hui, merci à Benjamin Reyes et Christophe Papon. Programmation musicale Djoubaka. À samedi prochain, 19h20.